La communauté écotable rencontre.
Chères auditrices et auditeurs du podcast Sur le grill d'Écotable, pour ce début d'année 2024, j'ai laissé le micro une semaine sur deux à la communauté Écotable, l'association qui travaille main dans la main avec la société Écotable pour que la restauration durable devienne une réalité. L'association organise notamment des rencontres engagées à Paris, Marseille et Lyon à destination des professionnels de la restauration. Cette hors-série, intitulée « Rencontres », vous fait vivre ces moments d'échanges passionnants et stimulants. Amis restaurateurs, amis restauratrices, à écouter sans modération.
Nous sommes la communauté Écotable, l'association qui a pour mission de faire progresser l'alimentation durable en s'appuyant sur un réseau de professionnels engagés. Je suis Lorraine Petit, co-secrétaire générale de l'association et journaliste culinaire. Dans cet épisode, nous allons remettre le végétal au centre de nos assiettes. Psst, les témoignages que vous allez entendre au fil de votre écoute ont été enregistrés au printemps 2023. Lors de nos rencontres organisées à Paris et Lyon, nous avons échangé sur le renouveau des cuisines végétales. Selon le dernier rapport du Haut Conseil pour le Climat, l'agriculture représentait 18% des émissions de gaz à effet de serre de la France en 2021, dont 59% étaient liées à l'élevage. À l'échelle mondiale, 70% des terres agricoles sont destinées à nourrir les animaux d'élevage. Les conséquences ? Une déforestation significative, pollution conséquente des eaux et des sols et un appauvrissement de la biodiversité. Scientifiques et médecins alertent quant à eux sur les nombreux risques que peut engendrer une consommation excessive de viande sur la santé. Conscients des enjeux pour l'environnement, pour leur organisme et soucieux du bien-être animal, 30% des Françaises et des Français déclarent vouloir réduire leur consommation de viande. Pourtant, en tant que restaurateur et restauratrice, végétaliser sa carte, ce n'est pas toujours une mince affaire, et la consommation globale est encore loin de diminuer. Par conviction ou par nécessité, quels sont les avantages à proposer un menu moins carné ? Aussi, comment végétaliser sa carte en gardant une offre alléchante ? Et quelle place donner à la viande dans les cantines scolaires ? À Lyon, Loïc Fayet, formateur aux méthodes de cuisine nourricière, nous explique pourquoi il est si difficile de retirer la viande des assiettes en France.
Alors effectivement, c'est un long sujet, c'est un sujet qui vient de loin. Là, je sors de l'animation d'une fresque de l'alimentation dans une école pour décrocheurs qui s'appelle l'Année Lumière, dans le 9e, où on a parlé justement de ce sujet-là. Et en fait, les gamins se sont aperçus à la fin de la fresque, comme beaucoup, que effectivement, un des principaux leviers qu'on a pour manger mieux et manger plus durable, c'est la viande, c'est la consommation de la viande. Ce que j'ai coutume de rappeler, moi, c'est qu'en fait, on nous observe souvent qu'en fait, on a toujours mangé de la viande, hein, ce qui est vrai, mais on en a mangé à des quantités différentes. Les hommes préhistoriques n'en mangeaient, et les hommes de Cro-Magnon et nos prédécesseurs Homo sapiens, finalement, en mangeaient assez peu. Ils en mangeaient quand ils arrivaient à chasser, ce qui n'était pas toujours facile. Et donc, du coup, ils mangeaient principalement, enfin, ils avaient un menu qui était principalement végétarien. En 1800, on mangeait environ 20 kilos de viande par personne et par an. En 1950, on en mangeait 40. Et aujourd'hui, on en mange 80. Donc, on a, d'une alimentation qui était très, très végétale, on est passé à une alimentation qui est excessivement, et aujourd'hui, l'excessif, j'ai l'explicité, qui est devenu excessivement animal. Tout ça parce que, en fait, la consommation de masse s'est développée, le niveau de confort, l'alimentation, la viande, il ne faut pas l'oublier, c'est un des aspects pour lequel c'est compliqué de changer, c'est que c'est un marqueur social. Dès que vous avez un petit peu d'argent, et on le voit aujourd'hui dans les pays en développement, dès que vous avez un peu plus d'argent et que vous avez payé votre alimentation, vous avez payé l'école des enfants, notamment, vous achetez un peu de viande. D'abord le dimanche, et puis quand vous êtes à flot un peu plus, vous en achetez tous les jours. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. Souvenez-vous de la poule au pot d'Henri IV, hein, le dimanche. À cette époque-là, ça devait effectivement au mieux le dimanche et de temps en temps, une fois par mois. Là, aujourd'hui, on est passé en fait de la viande qui symbolisait par sa festivité, par sa richesse, le repas du dimanche. Et en fait, aujourd'hui, c'est tous les jours dimanche. on mange de la viande tous les jours, voire deux fois par jour. Moi, j'ai encore rencontré un étudiant de sup de pub l'année dernière, presque d'alimentation pareille, et qui nous a avoué dans le groupe que, en fait, et sans savoir de remords ni quoi ni qu'est-ce, mais qu'il mangeait de la viande 14 fois par semaine. Alors que dans son groupe, il y avait notamment deux filles qui avaient arrêté de manger de la viande complètement, l'une pour des questions culturelles et l'autre pour des raisons bien-être animal. Voilà, donc en fait, la consommation de la viande, elle s'est progressivement installée dans nos assiettes. Et on le voit aujourd'hui en Afrique, on le voit aujourd'hui en Inde, on le voit enfin dans le nord de l'Inde, on le voit en Indonésie, enfin on le voit dans tous les pays en développement. En fait, la consommation de viande, aujourd'hui, quand vous regardez la courbe de consommation de la viande, en France, elle baisse depuis un peu, depuis une dizaine d'années. Dans le reste du monde, ça continue à augmenter et c'est tiré par la Chine, c'est tiré par l'Inde, c'est tiré par le Pakistan, c'est tiré par l'Inde, le Nigeria. Enfin, tous ces pays qui sont à forte population, qui s'enrichissent au fur et à mesure, et qui reproduisent en fait quelque part le modèle qu'on a vécu nous. Et quand 1950, c'est pas si loin, c'est nos grands-parents, on a doublé, on est passé de 40 à 80. Donc du coup, c'est un fait social, c'est un fait culturel. J'ai encore discuté avec justement des personnes que j'avais en formation samedi, dont deux venaient de sortir du CAP de cuisine. CAP de cuisine s'appelle le CAP de gastronomie française. Et il est inenvisageable. Donc, évidemment, les marqueurs du CAP de cuisine, on vous demande de savoir faire un avarin d'agneau, un bœuf bourguignon et une blanquette de veau. Voilà. Et du coup, en discutant avec eux et en discutant avec des référents du CAP de cuisine, on ne bougera pas d'un iota le référentiel tel qu'il existe aujourd'hui. Ce que je trouve étonnant, c'est qu'on n'ait pas réussi à créer, à côté du CAP de cuisine gastronomique française, qu'on n'ait pas réussi à créer un CAP de cuisine alternative, cuisine végétarienne. Donc en fait, aujourd'hui, effectivement, il y a peu de formations pour être cuisinier de restauration collective et il y a peu de formations pour être cuisinier et d'apprendre la cuisine végétarienne. On trouve de quoi faire, mais... Si on voulait former demain l'ensemble des cuisiniers de France et de Navarre en restauration collective à la cuisine végétarienne, on serait bien normal de pouvoir le faire de façon massive. Parce que tout simplement, la connaissance et la culture n'existe pas. Et on voit bien, nous, dans les formations qu'on anime, que ce soit pour les élus, que ce soit pour les cuisiniers, que ce soit pour les parents d'élèves, enlever la viande, enfin, vous avez payé pour voir à la ville de Lyon, mais enlever la viande, c'est compliqué. Parce que culturellement, il y a plein d'ancrages sur le côté nutritionnel. Si on mange pas de viande, on n'a pas de fer, donc on peut pas grandir, on peut pas devenir intelligent. Et donc du coup, mon gamin ne pourra pas faire des grandes écoles. Ça, c'est des choses qu'on a déjà entendues dans les réunions de parents. Voilà. Donc en fait, il y a plein de choses qui sont attachées à la viande, mais qui sont plus de nature culturelle que de nature nutritionnelle ou scientifique. Même si effectivement, la protéine et les qualités de protéines animales sont des protéines de bonne qualité, on n'a pas forcément besoin d'en manger et surtout pas autant.
Très ancrée dans la culture gastronomique française, la viande garde une place prépondérante dans notre alimentation. Certains réussissent néanmoins à s'en affranchir. À Paris, c'est le cas de Chloé Charles, chef du restaurant Lago, ainsi que Édouard Marna et Benjamin Schlumberger, copropriétaires du restaurant Rambo. Tous les trois nous donnent leurs astuces pour convaincre les flexitariens et flexitariennes de manger davantage de menus végétariens.
Je suis chef depuis 7 ans et ça a commencé avec Fulgurance. Et l'idée déjà chez Fulgurance, c'était de proposer au moins une entrée végétarienne, un plat qui était moins carné que les autres, en enlevant un peu de protéines animales à travers un œuf, du fromage, enfin toujours en rajoutant de la gourmandise. J'ai toujours voulu en fait que la proposition végétarienne ou en tout cas moins carnée soit presque plus alléchante, on va dire, que les propositions qui contenaient des protéines animales, plus par idée de montrer l'exemple et de montrer qu'en fait, la cuisine végétarienne n'était pas forcément du quinoa mal cuit, mal assaisonné avec des légumes bouillis. Mais c'est vrai que aujourd'hui on a quand même un vrai sujet dans la restauration, c'est que il y a de plus en plus de monde qui veut faire à manger de la cuisine végétarienne et végane. Mais on a encore, alors j'ai pas de chiffres exacts de combien de pourcentage de la population est omnivore, mais c'est vrai que je pense qu'on doit approcher des 90% d'omnivores. Du coup, c'est vrai que même si faire attention aux véganes et aux végétariens est particulièrement important, parce que ils ont eux-mêmes des potes omnivores, pour moi, faire venir des omnivores à manger un peu plus vegan et végétarien est absolument nécessaire. Et je crois que c'est aux restaurateurs, finalement, de montrer que c'est possible et que ça peut être carrément bon. Et aujourd'hui, le problème de la majorité des restaurants, surtout des chaînes, si on dit à un omnivore « Est-ce que tu veux des frites véganes ?» on risque sûrement de se prendre dans la tronche qu'on commence à nous faire chier avec ces trucs véganes et qu'il faut bien des frites tout court. Sauf que la majorité des frites aujourd'hui sont véganes et c'est vrai que c'est juste une histoire d'appellation finalement. Vu que les frites ne sont moins cuites dans de la graisse de bœuf qu'autrefois. Donc c'est vrai que l'appellation a, je trouve, particulièrement son importance et le côté psychologique finalement des clients est particulièrement important.
Je rejoins totalement Chloé sur l'idée que on n'est pas là pour faire la guerre à ceux qui mangent de la viande, mais plutôt à déclarer une forme d'amour du végétal et de dire qu'il y a une vraie diversité et d'avoir des clients qui sont flexitariens, même si pareil, on n'aime pas trop les étiquettes, on n'écrit pas devant Rambo est flexitarien, Rambo est machin, non. Non, c'est comme la carte est très courte, c'est qu'on force aussi les gens à manger du végétal. S'ils veulent du poulet, ils auront du chou de Bruxelles. Et comme c'est des clientèles de bureau assez adultes, il n'y a pas de « je peux avoir du poulet frites, je peux avoir la garniture du plat végétarien avec la viande ». Non, ça, c'est pas possible.
Bien choisir ses mots, attiser la curiosité de la clientèle, sont des tuyaux à garder bien au chaud pour faire manger plus de végétal à ses convives. Pourtant, à Lyon, lorsque la municipalité a annoncé en 2021 la volonté de mettre en place des menus sans viande dans les cantines scolaires, le projet a été plutôt mal accueilli par l'opinion publique. Gauthier Chapuis, adjoint au maire en charge de l'alimentation durable, de la végétalisation, de la sécurité alimentaire et de la biodiversité, nous raconte ce challenge.
Et l'idée, c'était de se dire bon bah comment on passe de la stratégie de nourrir tous les enfants, qui est toujours l'ambition, hein, c'est ça la stratégie première, hein, à manger de bonne qualité et bon pour la santé, bon pour la planète et juste socialement. Et c'est un challenge parce que comme je disais, effectivement, c'est une seule cuisine centrale qui livre tous les restaurants scolaires. À cela, il faut effectivement rajouter l'ambition de faire à manger de la qualité végétarienne, avec toutes les problématiques, à savoir notamment les formations. Voilà, on fait appel notamment à des produits qui sont des protéines végétales, par exemple de pois, qu'on sert dans certains menus, et au niveau structuré ressemble beaucoup à du poulet. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on a commencé à le servir, on l'a servi sans accompagnement. Voilà, on disait c'est de la protéine de pois, et puis il y avait un accompagnement avec des petits pois ou du riz ou voilà. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait deux freins. Un qui venait des gens qui servent en cuisine, en disant non mais attendez, vous vous êtes trompé, c'est du poulet, ça va pas, voilà. Et la deuxième chose, ça venait des enfants qui racontaient à leurs parents que finalement, on leur avait fait manger du poulet. Donc du coup, c'est là où je dis qu'en fait, quand on change le contenu de l'assiette, on a fait la moitié du chemin. Et que l'autre moitié, elle est sur l'accompagnement collectif de chaque maillon de la chaîne qui est ultra, ultra important. Donc, on a pas enlever ce menu de la cantine. Simplement, on a formé tout le monde en expliquant ce que c'était que la protéine végétale de pois, pourquoi on était rentré dans cette démarche, en faisant une fiche explicative pour les dames et c'est plutôt des femmes d'ailleurs qui servent en cuisine, mais en réexpliquant justement la démarche, etc., etc. Et maintenant, c'est un menu qui est plébiscité puisque on a aussi le pilotage donc c'est les enfants qui votent à la fin des repas s'ils ont aimé, apprécié ou pas. Donc chaque mois, on a le repas qui a gagné. Et en janvier, c'était le couscous végétarien qui fait appel à ce type de protéines. Pour dire que finalement, voilà, le changement, s'il s'accompagne, finalement, il est admis et même il est d'ailleurs d'une certaine manière plébiscité dans ce cas-là.
Si retirer la viande des assiettes cristallise encore les tensions, il existe des solutions pour continuer à manger des produits carnés de façon plus raisonnée. C'est ce que nous explique le formateur Loïc Fayet à Lyon.
Bon, alors aujourd'hui, en France, on a à Lyon, à Grenoble, on en a deux, mais en France, il y a minimum un repas végétarien. Donc un repas où il n'y a pas ni de viande ni de poisson. On s'aperçoit d'ailleurs que lors de ces repas-là, en fait, les cuisiniers, ils chargent avec des produits laitiers, des œufs, juste pour s'assurer qu'en fait, voilà, il n'y ait pas de trous dans la raquette et que les gamins soient en bonne santé et que, voilà. Enfin bon, c'est une question culturelle. Donc, du coup, la culture, ça se change pas d'un jour à l'autre. Il y a besoin d'appropriation, il y a besoin de formation, il y a besoin de comprendre ce que vient de dire Gauthier, comment ça fonctionne, démystifier. Enfin, voilà, il y a tout ce travail-là. Donc, une fois qu'on s'est dit, effectivement, on mange moins de viande, après, nous, on fait un gros distinguo entre quand on se parle de viande, de quoi on se parle. Et aujourd'hui, le débat, il se situe, que ce soit en restauration collective, mais dans les familles, dans la restauration commerciale, c'est avec ou sans. Aujourd'hui, c'est encore même à Lyon, c'est encore compliqué de trouver des restaurants où il y a une ou deux offres végétariennes qui soient autres que l'accompagnement, le riz de la blanquette de veau ou le maïs du chili con carne. L'intérêt de mettre moins de viande, c'est que la protéine animale, c'est le coût d'un repas, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc, quand on diminue ou quand on enlève la place de la viande, on récupère un peu d'argent. Du coup, sur le prix, avec les questions d'inflation, sur l'énergie et sur les denrées, aujourd'hui, quand vous parlez d'économie aux élus, c'est des choses sur lesquelles ils sont assez réceptifs. Donc, du coup, en fait, nous, ce qu'on amène, c'est si on mange moins de viande, eh ben, autant en manger mieux. Du coup, quand on mange pas de viande une journée ou deux dans la semaine, sur les quatre, ça vous donne une marge de manœuvre financière pour réinvestir cet argent-là sur de la viande de meilleure qualité, en moindre quantité, parce que là aussi, il y a un sujet sur les portions qui sont recommandées dans le primaire, dans les collèges, sur lesquelles on peut s'affranchir, et donc du coup diminuer. Donc du coup, l'idée, c'est, comme on sait qu'on mange de toute manière globalement trop de protéines animales, c'est comment en fait on peut réduire en fait la quantité de protéines animales qu'on sert à l'école. Et après, c'est cette marge de manœuvre financière, comment on la réinvestit dans de la viande de meilleure qualité, si possible, dans les éleveurs du coin, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'élus, moi je suis surpris de constater, qui ne réalisent pas, qui font partie d'un système alimentaire, qu'autour d'eux, il y a des producteurs de céréales, de fruits, de légumes, de viande, qui ne réalisent pas non plus qu'il peut y avoir des transformateurs, et tous ces gens-là, à un moment ou à un autre, pourraient contribuer à l'approvisionnement de leur cantine. Il faut savoir que 70% de la volaille dans les assiettes des enfants français vient du Brésil, nourrie avec, je vous laisse imaginer, voilà, et donc du coup de la viande de très basse qualité qu'on achète dans ces quantités-là à cause du prix. Je suis persuadé que si les élus mangeaient plus souvent et les parents d'élèves mangeaient plus souvent à la cantine, la qualité des assiettes de cantine scolaire en France serait bien meilleure qualité.
Comme celles et ceux convaincus de l'importance d'introduire plus de végétal dans nos assiettes, nos invités parisiens, Benjamin Schlumberger et Chloé Charles, déconstruisent les idées reçues sur les menus végétariens.
Manger ça à des voisins, n'importe où, c'est si vous avez un jardin, un bout de terrain avec des plantes qui poussent, des plantes sauvages, vous installez plantes nettes, oui, à la campagne, j'entends. À Paris, non, tu as des jardins ici, je veux bien squatter un peu. Mais à la campagne, essayer de convaincre mes voisins, mais tournez pas la pelouse, vous voulez faire une salade, vous voulez savoir comment j'ai fait cette salade le 31 décembre, j'ai pris plantes nettes, je me suis mis à quatre pattes dans le jardin et j'ai vu regarder ce qu'il y avait. Et il y avait du mouron des oiseaux, il y avait plein de mourons des oiseaux, il y avait du poireau sauvage et machin. Et il y a une diversité que les gens ignorent totalement. Quand on dit aux gens l'aspergillodorante, ça pousse en Île-de-France, qu'est-ce que c'est que l'aspergillodorante? Je trouve qu'il y a un savoir qui s'est perdu là-dessus et c'est vachement dommage. Et donc ça joue sur cette sorte d'exotisme qui, en plus, si on cède des épices à l'import, il y a une palette qui est extrêmement large, là où c'est vrai que la côte de bœuf, ça va rester une côte de bœuf.
C'est surtout que le légume, là où il fait le plus peur, entre guillemets, à l'omnivore, c'est que l'omnivore a peur d'avoir faim après avoir mangé que des légumes. Donc c'est vrai que les légumineuses et les céréales permettent justement d'avoir cette sensation de satiété. Enfin, je sais que moi, personnellement, je quand je vais au restaurant le midi, ce qui m'arrive pas si souvent que ça, j'ai quand même envie, j'ai pas envie d'avoir faim à 16h30 parce que, enfin, d'avoir vraiment faim à 16h30 au point de me dire ok, je vais pas réussir à tenir jusqu'au dîner. Il y a aussi quand même enfin ce côté bon ok, j'ai déjeuné, je tiens jusqu'au dîner, quoi, pour les adultes en tout cas. Et même s'il y en a qui restent des grands enfants. Et c'est vrai que les céréales elles vont ajouter du côté cool aux légumes et en plus permettre d'avoir quand même mieux manger. Ça tient encore. Enfin, les deux combinés, franchement, c'est un terrain de jeu qui est assez ouf, quoi. Moi, je m'éclate beaucoup, beaucoup plus avec tout ça que je veux dire, une Saint-Jacques, c'est rigolo, mais bon, hop, c'est fini. Mais comme je vais finalement plus m'éclater avec les bardes ou les coraux de la Saint-Jacques que la Saint-Jacques en elle-même, enfin, je trouve qu'il y a aussi un, quand c'est trop facile, bon. Puis voilà, il y a, ça rajoute en découverte. Et après, je dirais que là-dessus, je pense à ça parce qu'on est au perchoir et qu'il y a Manon qui a écrit un livre sur les céréales, mais c'est vrai que, il y a plein de choses à lire aussi sur les sujets. Il y a des bouquins qui sont hyper intéressants sans forcément ouvrir des livres et les bouquiner de A à Z. S'entourer de livres qui sont bons sur le sujet. Il y en a de plus en plus, surtout en 2023.
Moi, je valide aussi le livre de Manon Fleury. Et ce que je trouve assez intéressant quand je le présente ou quand j'en parle aux gens, c'est que je trouve qu'il fait une transition entre une cuisine qui peut sembler un peu ancienne, des céréales, des graines, et à la fois avant-gardiste parce qu'on va être obligé d'y arriver. Et moi, ça me fait penser à un bouquin que j'avais, un vieux bouquin que j'ai retrouvé, de la cuisine du Languedoc, où une des recettes, c'est franchement... 3 feuilles de laurier, un trait d'huile et du pain rassis. Et le bouillon, c'est, bah, faites chauffer l'eau, vous mettez feuilles de laurier, une pincée de sel, machin, vous versez ça sur le pain rassis, et bon appétit.
Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Enfin, je veux dire, le problème de toutes ces chaînes qui nous ont fait croire que le végétarien, la cuisine végétarienne, c'était pas bon, c'est aussi parce que, une céréale de merde, plus un légume de merde, plus une huile d'olive de merde, plus du jus de citron hors saison, bah, forcément, c'est pas bon, quoi. Alors que, en vrai, une super bonne céréale, un bon légume, un bon assaisonnement avec un vinaigre de qualité ou des citrons en pleine saison, une super bonne huile d'olive, enfin, franchement, c'est la même histoire que la tomate mozza de plein hiver dégueulasse, même la tomate tout court et la tomate d'antan avec une bonne huile d'olive et juste 3 grammes de fleur de sel. C'est exactement la même histoire. Et donc, ce qui est marrant, c'est que la plupart des gens l'ont intégré pour la tomate, par exemple, qui est la tomate, c'est bon. Aujourd'hui, quasiment tout le monde sait que ça pousse pas en hiver. Ceux qui en achètent toujours, ils disent genre, ouais, mais bon, en Bretagne, ils en font pousser, donc ça va. Et puis, en plus, genre, dans ma recette, il y a écrit tomate, donc il m'en faut. Mais en vrai, tout le monde sait que ça pousse pas en hiver. Et tout le monde reconnaît que la tomate de plein champ, elle est bien meilleure en plein été, machin, bidule. Mais c'est aussi le cas pour une carotte, pour un concombre qui, non, ne pousse pas en hiver, pour des petits navets de printemps, enfin, pour tous ces légumes-là. Et ce qui est assez marrant, c'est que là, on parle que d'adultes. Enfin, moi, je suis aussi assez engagé au niveau des enfants et compagnie. Bah, les enfants, c'est pareil, ils sont pas cons, donc en fait un truc pas bon et hors saison, bah, ils vont me ressentir, et puis comme par hasard, ils vont kiffer manger des légumes quand ils sont en pleine saison, qu'ils ont plein de goût et qu'ils ont du sucre, des nutriments, qu'ils ont pas été cueillis aussi il y a 6 mois de ça et tout. Et c'est vrai que bah, tout ça change pour vos clients. Et pareil, il va ressentir aussi, je veux dire, un filet d'une méga bonne huile d'olive, certes qu'on va payer peut-être 3 fois plus cher qu'un truc dans une bouteille en plastique à 5,50 le litre, mais une bonne huile d'olive à 18 balles le litre, donc on va faire juste un petit trait comme ça, on va pas en mettre des tonnes, mais par contre, la différence, elle est là. Et ça, pour moi, c'est un peu ce que j'appelle aussi la cuisine feignasse et la cuisine un peu de placard, on en parlait juste avant que ça commence. Avoir un très bon vinaigre, une très bonne huile d'olive, un très bon sel, un très bon épice, un très bon machin, en fait, d'un coup, votre légume, bah, c'est plus le même parce qu'il y a ce condiment là qui fait que paf, il est là, quoi.
Merci d'avoir écouté Rencontre, un podcast de la communauté écotable que je me délecte d'animer. Réalisation, montage et mixage par Justine Nérini. Le générique est d'Antoine Deboutret. Restaurateurs, restauratrices, producteurs et productrices, élus, citoyens et citoyennes, vous souhaitez faire avancer l'alimentation durable avec nous ? Rejoignez le mouvement. Écrivez-nous sur contact@communautéécotable.fr et adhérez à l'association sur Hello Assou. À bientôt !